Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules, surtout.
C'est fini. Bon, va à la Fashion Week.
Redescends.
Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. C'est bon. Voyage en classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
L'after qui continue jusqu'à minuit, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut à tous, salut aux amis du bémol.
Au programme des deux heures qui viennent dans l'after, le Capitana au Paris Saint-Germain. Florent veut en parler. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 22h45-23h. Daniel, lui, veut parler de l'avenir de l'Olympique lyonnais avec vous au 32-16. Donc également après 23h. Et puis on joue en Allemagne. Ce soir, Paulo Breitner sera avec nous un peu plus tard pour analyser les résultats du soir. En ce moment, par exemple, le Bayern étonnamment perd contre Cologne. 1-0 pour Cologne à Munich, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Et puis dans quelques secondes, si vous êtes fan de foot, évidemment, vous êtes là, vous êtes fan de foot, et si vous êtes fan de foot et d'histoire, comme nous, dans l'after, bah, vous allez vous régaler, vous allez découvrir des liens étonnants entre l'histoire récente de notre pays et les matchs de l'équipe de France à l'occasion de la sortie d'un livre il y a quelques mois de cela qu'on a sur notre table. Et l'auteur du bouquin est avec nous, je l'accueille dans quelques instants. D'abord, les matchs, parce qu'il y a pas mal de matchs en cours. Match en Angleterre ce soir, Southampton Newcastle 0-0 à la mi-temps. En Italie, la Lazio mène 2-0 face à Milan en championnat. Match important pour Naples, indirectement, qui s'envolerait en tête de classement avec une victoire, là, si Milan perd. Et puis donc, le foot allemand, je vous ai dit que Cologne menait 1-0 Bayern tout à l'heure. Leipzig a gagné 6-1 à Schalke, qui va pas très fort. Paulo Breitner, tout à l'heure, pour analyser tout ça. Le 32-16 est ouvert pour tous nos sujets du soir. Le hashtag RMC Live sur Twitter. Et puis Direct Studio, notre messagerie à nous, sur nos applis RMC, RMC Sport, qui vous permet de nous envoyer des messages en direct. N'hésitez pas à le faire. Dernier message arrivé. Daniel revient sur Twitter. Incroyable. On attend les prochains tweets sur la carrière de Verratti. C'est le dernier message arrivé sur Direct Studio de Thibaut. Voilà. Je complète son. Il dit, on attend les prochains tweets sur la carrière de Verratti, mais aussi sur la CGT Sudrail et les pizzas dell'Arte. Apparemment, il te connaît bien.
Exactement.
François Darocha Carnero est avec nous. François, bonsoir.
Bonsoir.
François est historien, messieurs, auteur de auteur, prof d'histoire aussi. On en parlait.
Prof d'histoire, oui.
Tout à l'heure. Bon. Et passionné.
Lycée,
foot.
Collège. Lycée et un petit peu appréciant le foot. Croyant mais pas pratiquant.
Très bien. Alors, le livre s'appelle Une histoire de France en crampons. Alors, moi, je suis tombé dessus dans une librairie et j'ai feuilleté. Je me suis dit, ah, c'est génial, c'est pour moi, j'ai acheté. C'est top. Donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle dans l'after. Parce que vous réussissez le tour de force, en fait, de faire à chaque fois un lien entre des matchs de l'équipe de France très précis et des moments d'histoire. Alors, évidemment, l'équipe de France, ça ne remonte pas au 15e siècle. Hein. Le premier match de l'équipe de France, c'est 1904. Comment est née cette idée d'associer, parce que ce n'est pas forcément évident, moi je me suis dit, comment va-t-il réussir le tour de force de faire ça?
L'idée, elle vient de fait de l'écriture de l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui, en variant les supports et en variant les angles d'attaque. Donc, je suis un historien de ma génération qui se nourrit de ce que les autres historiens peuvent faire, et également quand même de travaux qui ont pu être faits en Angleterre en particulier par Jonathan Wilson, qui a écrit une anatomie de l'Angleterre en 10 matchs. Donc l'idée était rebondir, de reprendre un petit peu cette idée avec le champ de recherche qui est le mien, ma spécialité d'historien, à savoir l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France masculine. Mm-hmm. Je ne me suis pas penché sur l'équipe de France féminine alors qu'on est aujourd'hui le jour international du sport féminin. Certainement le grand événement du jour avec le retour de Daniel Riolo sur Twitter.
Exactement.
Et donc, à partir de ces nourritures multiples, à la fois historiennes et puis liées à l'histoire du football ailleurs qu'en France, est venue l'idée d'écrire une histoire de France à partir de matchs.
Et alors, vous avez décidé de diviser ça en quatre grandes parties. qu'on peut détailler pour bien comprendre en fait que, comme je l'ai dit, évidemment, on peut pas remonter très très loin puisque le premier match des Bleus c'est 1904 face à la Belgique. Une belle tôle d'ailleurs.
Non, match nul. 3-3.
Ah non, c'était quand la tôle, le 12 ou 16-0 là ?
Il y a eu des 12-0 ensuite, il y a eu le 17-1 contre le Danemark en 1908, mais 1904, c'est
17-1.
17-1, mais le but français était marqué par un Roubaisien, donc l'honneur est sauf.
Très bien. Ouais, alors, c'est quoi ces quatre parties ?
Alors, les quatre parties, il y a le soldat, les fils d'immigrés, le monde du travail, puisque les footballeurs sont des travailleurs, et comment on réagit comme Français face au totalitarisme, face aux monstres. Alors, totalitarisme installé dans le cadre de dictature, ou terrorisme, ou Covid.
Alors, c'est très intéressant. Alors, on va faire un peu partie par partie.
Le Covid, c'est déjà la partie la plus étonnante, la plus capillotractée, je dirais,
voit au fil de l'histoire quand même que les choses s'arrangent et les dangers sont moins dangereux. Si vous me permettez, professeur...
il y a quand même eu quelques dizaines de milliers de morts.
Je pense que ça n'est pas comparable avec les guerres mondiales.
Non, tout à fait.
Même si, effectivement, ce fut dramatique.
Alors... Au fil des pages, on redécouvre aussi des alors moi, ce que j'adore, c'est les matchs du début du 20e siècle, là, parce que là, tu découvres des noms de joueurs, des noms de clubs, comme par exemple l'Union Athlétique Inter-Gazzaric, le Club des Sports Athlétiques à Paris, l'Étoile des Deux Lacs, bon, c'est des clubs qui ont disparu, qu'on connaît plus, bon, enfin bon. Démarrons par la première partie, donc, qui parle des soldats. Donc forcément, c'est des matchs proches des guerres mondiales avant, après. Je prends le premier que vous avez choisi, François, 1919.
Pendant 42 aussi. Ouais.
Pardon ? Oui, il y en a un pendant 42, on va y venir après. Mais d'abord, Première Guerre mondiale, il y en a un qui est post-guerre, en 1919, Belgique-France, où là, il s'agit de reconstruire l'équipe de France et de reconstruire la France.
Alors, le gros débat à ce moment-là, c'est reconstitution ou reconstruction ? Est-ce qu'on refait avec l'équipe d'avant la guerre, en sachant qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont morts, il y en a beaucoup qui ont été blessés, d'autres qui ne sont plus en état de jouer, qui sont à la fin de leur carrière, de fait, ou est-ce qu'on reconstruit une équipe de France, non pas ex nihilo, mais en tenant compte de l'effet de génération ?
Les joueurs étaient partis à la guerre. Je pense qu'il y a des auditeurs, c'est difficile de concevoir que la mobilisation générale, ça veut dire tout le monde.
On est joueur quand on a l'âge d'être soldat.
Et oui,
de fait. Et donc ces joueurs étaient en effet partis à la guerre et il y en a quelques-uns, donc une quinzaine qui y sont restés, qui sont morts pour la France pendant la guerre.
Mais excusez-moi de vous couper, c'est comme on voit en Ukraine des joueurs de tennis, mais certes plus en activité, mais qui sont allés au front. Il y a également le boxeur, lui qui avait commencé.
Klitschko.
Klitschko est appliqué aussi, le maire de Kiev.
Le champion actuel, là, mais le champion du monde des lourds actuels, merde, son nom m'échappe.
Lomachenko, non ?
Qui a ensuite est reparti s'entraîner, mais qui au début a quand même été là. Voilà, ça existe le champion sur le champ de bataille. Quoi.
Non, mais de fait, c'est l'âge, en effet, qui veut ça. Ouais. On est champion quand on a l'âge d'être aussi soldat. Et donc, en 1919, la question qui se pose, c'est reconstitution, reconstruction. On choisit de reconstruire une équipe de France et en même temps, c'est aussi la reconstruction fédérale puisqu'il n'y avait pas de fédération française de football et que la fédération naît d'un embryon d'avant-guerre, le CFI, le Comité Français Interfédéral, qui finalement débouche sur une fédération unisport alors que jusqu'alors, le football était entre les mains de fédérations omnisports.
Oui, on découvre aussi ça, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait des guerres entre groupements en fait de dirigeants qui voulaient s'accaparer l'organisation du foot finalement. Alors, ça veut dire que ces matchs d'après-guerre, que ce soit Première ou Deuxième Guerre mondiale, il y avait une sorte aussi de patriotisme exacerbé. Forcément, on sortait de conflits mondiaux, donc je pense que l'équipe de France avait sans doute une symbolique plus forte qu'en temps de paix.
De fait, les matchs de l'équipe de France servent un petit peu de vitrine à ce patriotisme qui est en plus affiché par des joueurs de l'âge des soldats. Donc, il y a vraiment cette concordance. Et en 1919, la plupart des joueurs sont encore soldats, puisque la mobilisation reste valable jusqu'à l'été 1919. Les combats s'arrêtent le 11 novembre, mais pas la guerre elle-même. Donc, il faut attendre les traités de paix, il faut attendre la démobilisation pour que la guerre s'arrête véritablement. Donc, de fait, là, il y a une marque patriotique qui est particulièrement forte encore en 1919 et qui peut l'être également à d'autres moments de l'histoire.
Est-ce que vous arriveriez à dater la, on va dire, la politisation du football et de l'équipe de France. C'est-à-dire à quel moment est-ce que nos dirigeants commencent à s'y intéresser, à se dire tiens, on a un intérêt quand même à soutenir ce mouvement populaire qu'est le football. Emmanuel Macron, avant la Coupe du Monde, a dit le football ne doit pas être politisé. Bon, évidemment, c'est totalement faux puisqu'il l'est en permanence, mais enfin bref.
Il l'a démontré lui-même.
Ouais. Voilà. Quand on se remémore les débuts balbutiants de l'équipe de France, le foot au début du XXe siècle, c'est pas grand-chose. Hein.
Disons qu'il y a, deux moments où on peut vraiment dater cette politisation. On peut aller voir des racines de la politisation de l'équipe de France. C'est d'abord la fin des années 30, lorsqu'elle est prise à partie par les journaux d'extrême droite, et en particulier l'Action française, qui voit dans le football français, et en particulier dans l'équipe de France, un ramassis de mercenaires étrangers. Et puis ensuite,
pourquoi ? Parce qu'il y avait des joueurs d'origine étrangère qui jouaient.
Des joueurs d'origine étrangère. Il y avait des joueurs d'origine coloniale, issus des colonies. Il y avait des étrangers naturalisés. Donc il y a cette idée-là. Et puis il y a également l'aspect racial qui entre en compte, puisque à partir de 1931, on a des joueurs noirs qui évoluent en équipe de France. Le premier, c'est Raoul Diagne en 1931. À la fin des années 30, on en a d'autres, et en particulier l'Arbi Ben Barek à partir de 1938. Et puis l'autre vague, l'autre moment de politisation assez fort, c'est probablement dans les années 70, à partir des années 70-80. Alors certains y adhèrent, certains hommes politiques y adhèrent très rapidement, et on peut penser à Valéry Giscard d'Estaing qui se montre en short en train de jouer au football. Et de mal jouer au football, mais peut-être aussi bien quand même qu'à l'accordéon. Et dans les années 70, c'est aussi l'éclat de l'épopée verte qui médiatise finalement le football en France, alors que jusqu'alors, il n'y a pas grand monde qui a envie de regarder des matchs de foot, et la Fédération française a plutôt peur de se faire dépasser par la fédération de rugby jusque dans les années 70. L'épopée verte arrive, médiatise le football, et dès lors, des politiciens peuvent avoir intérêt et peuvent aussi avoir le goût du football, parce que ce sont aussi des politiciens qui ont fait de l'EPS, qui ont fait du sport à l'école et qui ont pu être sportivisés, qui ont pu être éduqués au sport et en particulier au foot. On peut penser aux trois derniers présidents,
qui sont branchés
Hollande
foot.
Et Emmanuel Macron, qui sont branchés foot bien plus que ne l'étaient leurs prédécesseurs.
C'est vrai. Parlons de ce fameux match de 1942 dont parlait Florent. Donc là, on est en pleine guerre et il y a un Espagne-France qui est organisé. Alors vous allez me dire, peut-être que les adversaires du moment en 1942 étaient un peu limités. Hein, je sais pas, peut-être il y avait l'Allemagne, le Japon, l'Italie et l'Espagne. Je sais pas.
L'Espagne est un pays neutre. On choisit de se battre contre un pays neutre.
Qu'a-t-il de spécial ce match-là ?
C'est un match lié à la séparation du territoire, à la division du territoire en plusieurs parties. Et les deux principales parties sont connues, c'est la zone libre et la zone occupée. Et la difficulté de passer de l'une à l'autre, d'avoir l'autorisation de passer de l'une à l'autre. Les laisser passer. Donc les clubs du Nord ne peuvent pas laisser passer aisément vers le Sud leurs joueurs. Et bien sûr, un problème aussi d'organisation de l'équipe, parce que le sélectionneur lui-même, Gaston Barreau, n'a pas la faculté d'aller aussi facilement d'un bout à l'autre du territoire que s'il n'y avait pas cet éclatement du territoire national sous occupation.
Alors, on dit qu'il a, par exemple, vous racontez qu'il n'a pas réussi à avoir certains matchs dans le Sud, hein, c'est ça notamment, et qu'il n'a donc pas pu sélectionner les joueurs qu'il voulait. Il a fait jouer des joueurs à d'autres postes que ceux auxquels il jouait habituellement.
Oui, en particulier Maurice Dupuis qui est défenseur initialement, que son club fait jouer finalement avant-centre et ça marche plutôt bien. Mais Gaston Barreau a besoin d'un défenseur, donc il le replace en défenseur.
Oui, d'accord. Là, on est en mode club amateur du dimanche, là, qui en manque de défenseurs et qui met l'avant-centre.
Et d'ailleurs, avec un
d'ailleurs, l'Espagne a gagné 4-0, je le précise.
Oui, mais d'ailleurs, il le dit, le sélectionneur, il dit ça va être très compliqué parce que il dit il nous faudrait un avantage de 2 buts pour espérer l'emporter avant le match. Enfin, ça, c'est des phrases qu'on entend rarement. Mais aussi le problème du professionnalisme qui a des hoquets, évidemment, à ce moment-là en France et qui fait que les joueurs ne sont pas préparés, en fait.
Oui, le professionnalisme est quelque chose de très récent officiellement. De fait, en fait, le professionnalisme, la pratique professionnelle est bien plus ancienne, mais officiellement, c'est à partir de 1932. Et le régime de Vichy, l'arrivée du régime de Vichy, fait une pause prononce une pause dans le professionnalisme, interdit le professionnalisme parce que c'est mal vu et reconstitue des équipes fédérales, des équipes de fonctionnaires plus ou moins sportifs. Et finalement, ça ne marche pas. Cette formule échoue plus totalement. Au bout d'un an d'ailleurs de réforme en 1943, dès 1944, on remet tout cela à plat. Et le régime de Vichy.
Le joueur, là, qui a fini Colabo, là.
Alors, Alexandre Villaplane.
Villaplane, mais moi, je voulais qu'on parle d'un autre joueur, puisque c'est la période, c'est Matelaire, à l'inverse. Parce que Étienne Matelaire, c'est quand même un symbole incroyable, à la fois footballistiquement et patriotiquement.
Ouais, résistant, bon, capitaine de l'équipe de France, qui est capable de tenir tête à une Italie fasciste quand même en 1938. Et puis, en effet, qui entre dans la résistance, il est déclaré mort pendant la guerre et finalement, non, il n'est pas mort, mais bon, c'est.
Il rejoint le général Leclerc, non, c'est ça?
Oui, oui. Et par ailleurs, en effet, c'est en même temps qu'Alexandre Villaplane qui, lui, est un pauvre gars finalement qui
lui c'est surtout à la base un voyou et puis après il devient collabo
c'est, parce ouais, c'est ça que c'est la petite frappe
exactement c'est une petite frappe qui devient une grosse frappe et qui tombe dans la grande délinquance puis dans le collaborationnisme mais qui de fait n'a aucune ambition collaboratrice. Pour preuve, d'ailleurs, le dernier club qu'il fréquente à la fin de sa carrière professionnelle, c'est un club juif.
Lui, il était là pour le pognon.
Il n'avait pas de cohérence d'idées ou de ligne directrice.
Absolument aucune.
Et pour ceux qui, pour les jeunes, hein, je dis ça pour Matelaire, puisqu'il y a beaucoup de livres. C'est vrai que Villaplane, on a entendu parler récemment. Je crois qu'il y a un bouquin qui a été fait.
Oui, on avait
Luc Briand. Et Luc Briand fait d'ailleurs le parallèle avec Matelaire.
Mais Matelaire, pour ceux qui veulent aller voir déjà des écrits et des choses sur lui, c'est quand même, c'est une vie. C'est, Daniel parlait de ceux qui sont engagés là, qui sont engagés très très vite là par rapport à l'Ukraine. Enfin. Lui, effectivement,
musique, le boxeur d'ailleurs.
Ah là là,
musique, ouais. Et dès 38, c'est fort parce que lui, par rapport à l'Italie fasciste, il a déjà un discours, une façon de se comporter. Puisqu'on a aussi beaucoup demandé aux joueurs, ça c'est une question aussi qu'on pourra poser. Là, même pour le Qatar, pour l'Argentine en 78, comment doit-on se comporter quand on est footballeur? Qui a le courage de prendre la parole? Comment? Bon, Matelaire, lui, c'est un exemple de ça, quoi. Il est
preneur. On va en parler dans quelques instants. On continue la discussion avec François Darrocha-Carnero. Donc, le livre Une histoire de France en crampons aux éditions du Détour. À tout de suite dans l'After.